Eh bien, Monsieur Lucéran, puisque nous avons la chance de vous avoir ici à côté de nous, voudriez-vous dire à nos auditeurs ce que représente pour vous une voix que vous entendez ?
Eh bien, une voix que j'entends, c'est exactement une image. C'est même, je crois, la seule image complète que j'ai des hommes. Simplement, il se passe, bien entendu, pour la voix, ce qui doit se passer aussi pour un visage. C'est ainsi, par exemple, que lorsque nous voulons apprendre, deviner quelle est la vie intérieure, les émotions, les sentiments, les opinions de celui que nous avons devant nous et aussi son attitude vis-à-vis de nous, nous n'examinons pas le grain de sa peau et la forme de ses sourcils. C'est pour nous un élément secondaire. Nous essayons plutôt de voir à travers les formes de son visage et à travers les mouvements de ses formes ce qui peut se cacher. Pour une voix, il en est de même.
Moi, Lucéran, aveugle et résistant.
Il n'était pas très grand, mince. Il fumait beaucoup, beaucoup. Il est beau.
Épisode 1, Entrée dans la lumière. Un documentaire de Thibaut Delavigne et Antoine Jonin, réalisé par Marie Placet.
Il avait une voix que vous avez dû entendre. Alors évidemment, c'est une façon de s'exprimer qui, pour nous, date un peu. Mais en même temps, il y a un grand respect aussi des auditeurs. C'est très préparé, mais voilà, quoi, c'est la radio de l'époque.
Étudiant brillant, résistant précoce, rescapé des camps, professeur charismatique, écrivain inspiré, Jacques Lucéran illumine son époque, le mi-temps du XXe siècle et son cortège de mort et de violence. Quand l'ombre nazie s'étend sur le monde, Jacques se laisse guider par sa lumière intérieure, un don proche de la clairvoyance qui l'aide à traverser les ténèbres. Dévoré par un feu mystique, animé par une quête incessante du bonheur, le garçon, malgré son jeune âge, choisit de résister dès les premières heures de l'occupation. Mais avant de plonger dans les affres de la guerre, notre récit débute à Paris, dans les années 30. Jacques est enfant et n'a pas encore subi l'accident terrible qui va bouleverser sa vie.
Dans mes souvenirs, mon histoire commence toujours à la façon d'un conte de fées banal, mais d'un conte de fées. Il était une fois à Paris, entre les deux guerres mondiales, un petit garçon heureux. Et ce petit garçon, c'était moi. Quand je le regarde aujourd'hui, depuis ce milieu de ma vie que j'ai atteint, j'éprouve de l'émerveillement. C'est si rare, une enfance heureuse. Et puis c'est si peu à la mode de nos jours, qu'on croit à peine que c'est vrai.
Donc, je m'appelle Zina Végan. Je suis historienne. Et plus particulièrement historienne des aveugles et de la cécité. Et j'ai écrit des ouvrages, des articles, j'ai fait des conférences, enfin tout ça sur Jacques Lucéran. Bon, il naît dans une famille, disons, de la moyenne bourgeoisie. Son père avait fait des études d'ingénieur en physique et chimie. Et sa mère, en biologie, et aussi, enfin, c'est des gens qui avaient une formation scientifique. Il parle de son enfance en disant qu'une enfance comme celle-là, aimée comme il l'a été par ses parents, c'est une armure qui l'a protégé toute sa vie. C'est un gamin plein de vie, voilà. Alors, qui était atteint en fait d'une myopie, ce qui fait qu'il portait des lunettes, qui sont finalement la cause. La cause, c'est l'accident, mais c'est le fait de porter des lunettes qui a entraîné la perte de ses yeux, quoi.
Vers 10h, je m'étais levé comme tous mes camarades pour me précipiter vers la porte de la classe et la cour de récréation. Dans la bousculade de la sortie, un gamin plus âgé ou plus pressé que moi, accourant du fond de la classe, m'avait rejoint et heurté involontairement par derrière. Je ne l'avais pas vu venir, et sous la surprise, je perdis l'équilibre. J'ai essayé de me rattraper vainement et je glissais. Enfin, je vins me fracasser contre l'un des angles aigus du bureau du maître. Je portais en ce temps-là des lunettes à cause de cette myopie qu'on avait décelée chez moi et des lunettes à verre incassable. C'est cette protection qui me perdit. En effet, les verres ne se cassèrent pas, mais sous la violence du choc, la branche de la lunette pénétra dans l'œil droit et, meurtrissant les chairs, l'arracha. Quant à l'œil gauche, sans doute était-il perdu lui aussi, car la violence du choc avait été telle qu'un phénomène d'ophtalmie sympathique s'était produit. J'étais devenu aveugle définitivement.
Alors, je m'appelle Marion Chautin. Je suis chargée de recherche en philosophie du handicap au CNRS. Donc, nous sommes à Paris, dans le 7e arrondissement, rue Claire. Et dans cette rue Claire se trouvait l'école communale où allait Jacques Lucéran. Et c'est l'école dans laquelle, le 3 mai 1932, Lucéran a perdu la vue. Alors, il n'en parle pas du tout d'un traumatisme au sens d'un événement brutal, soudain, dont s'ensuit tout un ensemble d'affects tristes. Il en fait le point de départ de l'identité par laquelle il s'est ensuite toujours défini, à savoir celle d'un aveugle voyant. Parce qu'il raconte que quelques jours seulement après cet accident, il a fait une promenade au Champ de Mars avec son père. Et s'il a éprouvé, certes, dans un premier temps, une forme de tristesse de ne plus voir les arbres autour de lui, très rapidement, finalement, il a, comme il dit, tourné son regard vers l'intérieur et retrouvé la lumière. Et il n'a cessé de dire par la suite qu'il voyait, donc en différents sens du terme, dans son œuvre. Donc pour lui, c'est vraiment, ce n'est pas une fermeture, c'est l'ouverture d'un univers perceptif insoupçonné, très riche, d'un rapport aux autres différents.
La première réaction, évidemment, d'abord, il y a une grande souffrance physique, et puis après, il y a une peur. Tout d'un coup, le monde est éteint, enfin, bon, voilà. Et puis, il raconte que très rapidement, cette lumière qu'il cherchait à l'extérieur, en fait, il se rend compte qu'elle est en lui. Très vite, il a des perceptions de lumière, de couleurs, de choses comme ça.
Eh bien, j'ai été en effet frappé de cécité d'une façon accidentelle, à l'âge de 8 ans. Et le problème s'est posé de savoir comment je continuerai à vivre. Mes parents ont pris la résolution, difficile et heureuse, de me maintenir au milieu de mes camarades voyants. J'ai donc vécu dans des conditions absolument normales pendant toutes les années de mon enfance et de mon adolescence.
Déjà, ses parents refusent d'emblée de souscrire finalement à cette conception de la cécité comme tragédie personnelle qui, pour Jacques Lucéran, fait le malheur des aveugles malheureux. Ils tiennent à ce qu'il fasse sa scolarité à l'école ordinaire, au milieu des enfants non aveugles, qui vont l'aider tout du long de sa scolarité, lui lisant des livres, l'aidant dans son travail scolaire, et ce jusqu'à l'université.
C'est vrai qu'il avait une intelligence exceptionnelle. C'était quelqu'un, au fond, qui était très exigeant avec son entourage. Il demandait beaucoup d'aide. Mais en même temps, comme c'était une personnalité extrêmement rayonnante et aussi généreuse, il trouvait facilement de l'aide parce que les gens prenaient plaisir à l'aider. Alors, c'était vraiment un échange.
Soeben findet der Einmarsch der siegreichen deutschen Truppen in Paris statt.
Eh bien, si vous le voulez bien, Jacques Lucéran, Faisons tourner ensemble la machine du temps, la machine à revenir en arrière, et reportons-nous au temps où les Allemands venaient d'occuper la France. Vous étiez alors très jeune, n'est-ce pas ?
J'étais extrêmement jeune, j'avais 16 ans et j'étais étudiant.
Vous étiez étudiant et dans quelle partie de la France ?
J'étais à Paris à la fin de 1940.
Mais comment êtes-vous venu à la Résistance ? Y a-t-il eu un fait précis qui vous ait poussé dans cette voie ?
Il n'y a eu, autant que je le sache, aucun fait précis. Il y a eu seulement que tous mes camarades autour de moi me semblaient être, du moins beaucoup d'entre eux, dans un état d'indifférence que je détestais. J'ai voulu, en mars et avril 1941, résister comme je le pouvais à cela. Et j'ai constitué de moi-même, au lycée Louis-le-Grand tout d'abord, en avril 1941, un mouvement de résistance dans le cadre universitaire. Il s'appelait, il s'est appelé, les Volontaires de la Liberté.
Alors, on se trouve ici devant le portail du lycée Louis-le-Grand, rue Saint-Jacques. Et je suis particulièrement ému de me trouver ici. D'abord parce que j'imagine, je vais me permettre de dire Jacques, sortir dans la rue par ce portail principal. Mais je pense à d'autres de ses camarades qui ont créé, comme vous le savez, le groupe des Volontaires de la Liberté. Mon nom est Jacques Semelin, je suis historien. Disons que je suis parvenu aujourd'hui dans la condition où se trouve Jacques Lucerand. C'est-à-dire que je n'y vois plus du tout, et cela depuis l'âge de 34 ans. Peut-être ce qui me touche aussi, c'est que peut-être l'idée, le projet de créer quelque chose avec ses camarades dont je parlais tout à l'heure, eh bien... elle est née dans l'effervescence de la sortie du lycée, dans la rue peut-être, mais voilà, c'est peut-être là que quelques-uns, et Jacques en particulier, diront « il faut faire quelque chose ».
Les premiers résistants sont venus de ce qu'on appellerait nous aujourd'hui la société civile.
Olivier Wiewiórka, historien, spécialiste de la Seconde Guerre mondiale.
Un des éléments les plus impressionnants, les plus surprenants, c'est que au fond, vous n'avez pas de grandes voix, de grands noms qui appellent à la résistance, ni les partis en tant que tels, ni les institutions. Je pense à l'armée, je pense à l'Église, je pense aux syndicats. Donc la résistance, elle va au fond naître d'individus que rien a priori ne désignait pour prendre la tête du combat clandestin. Ce sont vraiment des obscurs, des sans-grades.
Et comment se forment les premiers groupes ? Parce que résister tout seul, c'est pas possible.
Alors, les premiers groupes, en fait, vont se coaliser, se créer autour de personnalités qui ont une vision, une vista, qui ont aussi, il faut le souligner, un certain charisme, et qui vont, en fait, à l'aide de leur réseau, amicaux, familiaux, professionnels, entrer dans la résistance.
La France n'a pas perdu la guerre. Les gouvernements de rencontre ont pu capituler, cédant à la panique. Oublions l'honneur, livrons le pays à la servitude. Mais le dernier mot est fini. L'espérance doit...
C'était les autres qui l'avaient voulu.
La flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre. Il ne s'éteindra pas.
Je m'étais donc vu dans l'obligation d'improviser une organisation. Là. Sur le champ. J'avais déjà lancé des invitations pour une réunion préliminaire. Les 10 camarades contactés s'y trouveraient tous à 5 heures pile. Ils y furent. Mais ils n'étaient pas 10, ils étaient 52. Maintenant la machine tournait. J'étais le chef d'un mouvement de résistance.
On se réunit à quelques-uns pour réfléchir à ce qu'on fait. On va faire un bulletin.
Jacques Semelin.
Pour communiquer.
Historien.
Pour toucher l'opinion. Puisque c'est un peu ça. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a les réseaux sociaux. Bon, on parle d'influenceurs. Ben, on peut dire que les volontaires de la liberté, dès le début, ont voulu jouer un rôle d'influenceurs de l'opinion. Donc, voilà, il y a une évolution qui va se faire progressivement avec des bulletins quand même assez réguliers, rythmés par la vie scolaire, hein. Parce que je pense que si la première réunion, c'est en mai 41, et le premier numéro, qui sera vraiment, on va dire, une feuille de chou, va sortir à l'automne 41, hein, donc après les vacances scolaires.
J'avais mis mon point d'honneur à faire l'équilibre entre mes deux vies, la publique et la secrète. Mes journées se balançaient entre les études et l'action, à une cadence effrayante. Le matin, de 4h30 à 7h, doublant, triplant le pas, je marchais dans les livres. De 8h à midi, j'écoutais les professeurs, prenais des notes comme un enragé, et essayais d'assimiler les connaissances au fur et à mesure qu'elles étaient données. L'après-midi, de 2h à 4h, j'étais encore en classe. À 4h, la résistance commençait.
Et est-ce qu'on sait quel est le rôle de Jacques Lucéran au sein des volontaires de la liberté ?
C'est un jeune homme particulièrement intelligent, particulièrement volontaire. Sans doute a-t-il une énergie exceptionnelle, une très bonne plume, une manière d'écrire qui fait mouche. Et tout cela, je pense, a joué un rôle essentiel dans la manière de contribuer à la création ou d'inspirer la création des volontaires de la liberté.
Alors, quelle était l'action de votre mouvement ?
Eh bien, notre mouvement, d'une certaine manière, n'agissait pas, ou il n'agissait pas encore. Nous voulions travailler, bien sûr, dans la résistance, mais nous nous préparions surtout, c'est-à-dire que nous groupions des cadres en vue d'une action beaucoup plus large de caractère national. Nous essayions de trouver des garçons disponibles et de les unir par des liens profonds.
Mais précisément, ce problème, non pas du recrutement, le mot serait impropre, mais enfin du contact humain, non seulement il était périlleux, mais il était peut-être difficile. Et je voudrais vous poser une question délicate. Est-ce que votre cécité a constitué dans ces contacts humains un obstacle ou bien une aide ?
Incontestablement une aide. Ma cécité me permettait d'avoir avec ceux que je touchais, c'est-à-dire près de 500 en l'espace de 2 années, des contacts beaucoup plus directs. Je pouvais éviter de tenir compte chez eux de tous les signes extérieurs qui trompent, en général, et je n'avais plus qu'une espèce de présence, non pas du tout abstraite, mais en quelque sorte intérieure.
Près de 600 garçons, en moins d'un an, prirent le chemin du boulevard Port-Royal. Ils venaient voir l'aveugle. « Va chez l'aveugle. » Allait-il se méfier d'un aveugle ? Qu'est-ce qu'un aveugle viendrait faire dans des eaux troubles ? Je savais que le seul moyen de connaître mon visiteur était de l'essayer. Si je pouvais sonder les cœurs et les consciences, je n'avais aucun doute sur ce point, c'était parce que j'étais aveugle, et pour aucune autre raison. J'avais pris très jeune l'habitude de deviner, puisque je ne voyais plus, de lire les signes au lieu des gestes, et de composer les signes entre eux, afin de faire un univers cohérent. La lumière qui se faisait dans ma tête était si forte qu'elle s'identifiait à la joie. Je devenais invulnérable. Je devenais infaillible aussi, ou presque.
Il y a un rôle que Lucéran s'attribue également pendant cette période des volontaires de la liberté, c'est celui de recruteur, celui qui dit quelle personnalité peut intégrer le groupe ou pas. Qu'est-ce que ça vous évoque et qu'est-ce que vous en pensez ?
Enfin, il a certainement une personnalité un peu charismatique. Mais moi, je ne peux pas me prononcer là-dessus, quoi. Comme s'il avait un autre sens. C'est pas impossible, mais pour moi, c'est difficile d'imaginer qu'il soit le seul à prendre une décision aussi importante. Voilà ce que je peux dire, mais nous n'avons aucun élément d'archives pour prouver quoi que ce soit, sauf ses propres mémoires.
En février 1943, les 600 membres des Volontaires de la Liberté ont pu, grâce à la rencontre que j'avais faite du Mouvement National Défense de la France, intégrer ce mouvement et constituer les cadres de la diffusion nationale de ce journal clandestin. Défense de la France possédait un journal clandestin, une imprimerie, mais ne possédait pas un système de diffusion. Nous avons apporté celui-ci. Et de février 1943, date de notre entrée, à juillet 1943, le tirage tous les 15 jours, le triage clandestin bien sûr, de Défense de la France, est passé de 10 000 exemplaires à 250 000 exemplaires.
En janvier 1943, une partie des Volontaires de Liberté décide de rejoindre Défense de la France.
Olivier Vieviorca.
Défense de la France est l'un des premiers mouvements de zone occupée et il a été créé par deux étudiants et une étudiante, Robert Salmon et Philippe Vianney pour les étudiants, Hélène Mortkovitch qui va épouser pendant la guerre Philippe Vianney. Donc Défense de la France va se constituer au départ autour d'un journal, Défense de la France, qui au départ n'est que un tract, hein. C'est un tract renéotypé, mais qui par la suite va gagner en épaisseur et être en mesure d'imprimer des journaux comme des journaux professionnels. Et dans ce cadre, Jacques Lucéran est chargé de la diffusion. Donc la diffusion, cela veut dire que une fois que les journaux sont imprimés, il faut les envoyer, les répartir, donc trouver des endroits où les stocker, trouver des volontaires pour les distribuer, éventuellement réfléchir aux endroits où les distribuer, qu'est-ce qui est plus efficace, qu'est-ce qui est intéressant en termes de diffusion, et c'est de ces éléments donc que Jacques Lucéran se saisit.
Dans ses bouquins, Lucéran explique que finalement la cécité joue un rôle prédominant dans son engagement résistant. Qu'est-ce que ça vous évoque, ça ?
Ça serait une manière de dire que s'il est devenu résistant, c'est parce qu'il était aveugle. Qu'il a donc bénéficié, entre guillemets, d'une préscience ou d'une précondition pour aller vers la résistance. Bof, ça se discute. Hein. En revanche, il y a chez lui le thème de la lumière qui me semble totalement fondamental, avec cette idée qu'il continue à voir la lumière et que donc il ne va pas se laisser abattre, entre guillemets, par la défaite, par l'instauration d'un pouvoir autoritaire et totalitaire en France. Il va savoir comment avancer dans son engagement de résistant.
Mais il y a aussi et plus que jamais le maquis de la pensée libre, de la presse clandestine. Ainsi, pour ce 14 juillet, toute manifestation étant interdite, Défense de la France va relever le défi.
Le numéro du 14 juillet 1943 est un moment extrêmement important parce que Défense de la France va vouloir frapper un grand coup.
Olivier Vieviorca.
C'est-à-dire que non seulement il tire le numéro de mémoire à 100 000 exemplaires et il décide, Défense de la France, de distribuer ce journal au grand jour. Donc on peut dire que c'est un, comme on aurait pu l'affirmer à l'époque, que c'est assez gonflé. Et effectivement, donc ce numéro va avoir un certain impact.
Et ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est que cet homme qui est Philippe Vianney, fondateur de Défense de la France, va proposer à Lucéran de faire l'éditorial du 14 juillet 43, quoi. Donc, c'est là où on voit la dimension du bonhomme, du jeune homme qu'est Lucéran.
Défense de la France, édition de Paris, numéro 36, 14 juillet 1943. La France risque de tomber en esclavage. Aussi importe-t-il plus que jamais de reconnaître ce qu'est la liberté, de célébrer la fête du 14 juillet. L'ennemi veut diminuer notre conscience morale, Il veut nous faire oublier notre devoir de révolte. Il faut, plus que jamais, qu'il soit encore possible aujourd'hui de dire, comme le disait en 1790 sur le pont de Kehl un écriteau désignant la France, « Ici commence le pays de la liberté ».
Pour les Allemands, la résistance n'a jamais été un problème majeur, sauf sans doute en 1944.
Olivier Wiewiórka.
Les Allemands vont utiliser des méthodes tout à fait classiques, qui seront d'abord de la surveillance, des contrôles, mais les meilleurs résultats sont obtenus par les Allemands en infiltrant des agents doubles dans les organisations clandestines, et ce sont ces méthodes qui sont malheureusement les plus terribles, hein, pour démanteler les formations clandestines.
Dans le Nord en particulier, Défense de la France triomphait. Mais nos agents y étaient débordés. Il nous fallait là-haut un nouveau patron. Il venait de se présenter, il s'appelait Elio. Seulement, dès le départ, il avait commis une faute. Il s'était présenté de lui-même à mon appartement, sans y avoir été expressément convoqué. Je mis aussitôt tous mes sens en alerte. Phénomène dont je n'avais pas l'habitude. Le bonhomme affolait ma machine. Mon aiguille intérieure virevoltait. Elle ne se posait ni sur le oui, ni sur le non.
En fait, les occupants ont démarché un individu qui s'appelle Marongin. Et donc, il a fait la rencontre de membres de Défense de la France. Et à un certain moment, eh bien, ses responsables lui ont dit « il faut passer à l'action ». Et donc Marongin a notamment donné le lieu d'une boîte aux lettres. Une boîte aux lettres, c'est-à-dire un endroit où on dépose des messages et un endroit où on prend les messages, qui était une librairie qui s'appelait le Vœu de Louis XIII. Donc une souricière a été montée le 20 juillet 1943. Et c'est cette souricière qui a permis d'arrêter un certain nombre de militants dans l'affaire du vœu de Louis XIII, donc 48 militants hein, ont été arrêtés rue Bonaparte.
Du fond de mon sommeil heureux, vers 5 heures du matin, j'entendis la voix de mon père. « Jacques, la police allemande te demande. » La voix de papa était un peu comme autrefois, quand il s'adressait à son petit garçon. Il aurait tant voulu me protéger. Évidemment, j'avais juste appris l'arrestation de 14 des chefs de réseau de défense de la France. Ce n'était pas un accident qu'il avait fallu, pour une pêche pareille. C'était une trahison générale, tellement fantastique qu'elle ne semblait pas vraie.
C'était « Moi, Lucéran, aveugle et résistant », épisode 1, « Entrée dans la lumière ». Merci à Zina Végan, Jacques Semelin, Marion Chotin, Olivier Wiewiórka, Gildas Bréguin et David Jakubowiez. Texte extrait de « Et la lumière fut » et « Le monde commence aujourd'hui » de Jacques Lucéran. Lecture des textes, Olivier Martineau. Lecture de l'éditorial de Défense de la France, Thierry Beauchamp. Prise de son, Sandrine Malon et Martin Troadec.
Mixage, Manon Houssin.
Un documentaire de Thibaut Delavigne et Antoine Jonin, réalisé par Marie Placet. À suivre, l'épisode 2, Sortir de l'ombre.